Merci à tous ceux qui se joignent à nous un peu partout. On va parler maintenant de santé au travail, de stress ou de harcèlement au travail. Tout ça peut mener là. Effectivement, je vais vous demander si vous en subissez, un peu comme ce que vivent les travailleurs du domaine de la santé. Vous avez vu, hein, il y a des récentes données de la CNESST, anciennement CSST, qui disait que plus que jamais, les gens qui travaillent là, là, les travailleurs sont victimes de violences de la part des patients et des clients. Et c'est vraiment pas drôle, c'est même excessivement inquiétant. Là-dedans, bien sûr, il y a des infirmiers, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires. Il y a également des intervenants nombreux à la DPJ qui vivent ça. Ma collègue journaliste à Cogeco Nouvelles, Annie Guillemette, s'est intéressée à ça et elle a voulu un peu répertorier les cas parce qu'on parle souvent de dossiers d'intervention. Mais là, Annie a vraiment fait une mini-enquête. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous en parler, Annie. Tu t'es rendu compte de beaucoup de choses, des constats inquiétant d'ailleurs. Mm-hmm.
Ouais, ben le premier constat, c'est que les gens qui travaillent dans les centres d'hébergement de la DPJ ont à peu près pas recours à la CNESST. Oui, ils sont victimes de violences de toutes sortes, mais lorsqu'ils sont au bout du rouleau, ben habituellement ils vont s'en aller en maladie, vont se faire retirer par leur médecin, mais il y aura à peu près pas de constat. Pourquoi je peux dire ça? C'est que j'ai fait une demande en vertu de la loi d'accès à l'information à la CNESST et ma demande était de recevoir tous les dossiers d'intervention de l'organisation partout au Québec dans les 5 dernières années. Donc, je m'attendais...
Pour les travailleurs de la DPJ.
Pour les travailleurs de la DPJ seulement. Donc, je m'attendais à recevoir des caisses et des caisses et des caisses. Vous voyez la pile, là?
33 dossiers à peu près.
33 dossiers. Ouais. Même pas 10 cm d'épais sur mon bureau.
Bon, ça veut dire que le monde se plaint pas?
Le monde ne se plaint pas. Ouais. Lorsqu'on se plaint, parce que bien sûr, bon là, il y a les accidents de travail, les chutes, les histoires d'un intervenant qui reçoit un but de soccer sur la tête. Bon, ça, c'est le classique, entre guillemets, de la CNESST. Sauf que dans 60% des cas que j'ai reçus sur mes 33 dossiers, ben on parle de violence. Donc, c'est vraiment la problématique la plus rapportée, même si on n'a pas beaucoup recours à la CNESST chez les travailleurs. Pourquoi? Ben, en grande partie parce que la loi du silence, la culture, la banalisation, elle est bien, bien, bien implantée. C'est presque génétique. Ce qu'on me dit sur le terrain, c'est ben, ça fait partie du job. Si t'es pas capable d'endurer ça, ben va ailleurs.
Ah, c'est carrément.
C'est ça que les gens se disent entre eux, se font dire aussi par leur patron. Au fil de mes trouvailles, de mes recherches, j'ai fait plusieurs entrevues. On peut écouter deux sons de cloche. Celui de la présidente nationale du syndicat de la PTS qui représente tous les intervenants au Québec de la DPJ s'appelle André Poirier. Et on va écouter tout de suite après un son de cloche peut-être un peu plus positif dans la mesure, bien sûr, où on peut aider les gens. Celui du professeur de l'Université de Montréal en psychoéducation, Steve Geoffrion. Il est un spécialiste du stress au travail. On va écouter donc les deux extraits un après l'autre.
Oh que oui, la culture est encore là. On entend encore des directions, des gestionnaires nous dire que ça fait partie du travail. Il y a une banalisation. Tu sais, ça fait partie du travail de se faire cracher dessus, de se faire crier, de se faire traiter de tous les noms. Ça, là, on l'entend partout au Québec, que ça fait partie de notre travail.
Les travailleurs qui se mettent à s'isoler, hein, qui se mettent à dire « ben j'irai pas dire à mes collègues que je suis un peu fatigué d'être exposé à cette violence-là », vont avoir beaucoup plus de réactions de détresse psychologique après justement l'exposition et n'iront pas chercher d'aide. Donc, s'ils vont pas chercher d'aide, ça devient un facteur de risque hein, pour développer là, une certaine détresse psychologique au travail et même un trouble de stress post-traumatique. Donc, c'est sûr qu'il faut que de plus en plus les organisations, et ça se fait là, dans le réseau en ce moment de la santé, on y a vraiment un travail à changer cette culture-là de banalisation-là, de comprendre que la violence va faire partie du travail, c'est une chose, mais que maintenant, on peut en parler puis on va recevoir un soutien. Mais encore là, il faut que le soutien soit présent.
Wow, donc on banalise la violence au travail.
Oui, on banalise beaucoup parce que pour les gens, ben c'est un risque normal. Si un pompier dit qu'il respire beaucoup de fumée, ben on va pas dire... ben t'es pas faite pour le job, va ailleurs. C'est un risque du métier pour un pompier. Un travailleur de la construction qui a des problèmes auditifs ou de l'acouphène après des dizaines d'années, ben
ou qu'il y a mal dans le dos, on va dire que ça fait partie de la job.
C'est ça.
Mais donc, dans les emplois comme ça, où tu interviens directement avec des humains qui sont en crise, parce que là, on parle de la DPJ, mais dans les cas de... On parlait aussi de toutes ces histoires qui sont arrivées auprès des gens dans le secteur de la santé, genre infirmiers, infirmières, préposés bénéficiaires. Là aussi, il y en a des cas. On en a vu au cours des derniers mois. Mais dans le cas de les DPJ, c'est travailler avec des jeunes en crise qui vont kicker, qui vont donner des coups de pied, qui vont se battre. Il y a des cas comme ça, d'ailleurs, oui, dont on t'a parlé, Annie Guillemette.
Oui, j'ai sorti deux cas là, vraiment qui peuvent bien, je pense, expliquer c'est quoi le job d'un intervenant dans un centre jeunesse. Là, on explique dans un centre jeunesse, mais c'est le même travail aussi pour les gens qui vont dans les familles et qui sont... on peut le dire, très, très souvent mal reçu. Ça, c'est un autre pan des problèmes. Je vous parle de la Villa Dion. C'est un centre d'hébergement pour des jeunes ados à Matane. En 2016, en deux mois, il y a eu 21 événements.
Hey boy.
Les événements, ça va de se faire frapper, jambes, torse, visage, se faire mordre, se faire pincer, se faire piquer avec des objets comme des punaises, des fourchettes, être la cible d'objets. On se fait lancer aussi des ustensiles quand c'est pas des chaises ou des poubelles. Menacer aussi avec des objets. On donne l'exemple dans le rapport là, de la CNESST de broches à tricoter. Et bien sûr, on parle de menaces verbales, dont des menaces de mort. Ça, ce sont les événements qui sont survenus 21 fois au cours des deux mois du printemps 2016 à Villa Dion.
Mon Dieu, il reste encore du monde de travailler là?
Bien, lorsque j'ai demandé si ça allait mieux aujourd'hui, effectivement, ça a été un peu compliqué d'avoir des gens qui étaient encore là quelques années plus tard. Mais lorsque on s'est penché sur la question, parce que ce cas-là s'est rendu, à l'époque, c'était à la CSST, eh bien oui, on a constaté que lorsqu'il y a une personne sur une unité avec un ado en crise et qu'on essaie de le maîtriser ou de le raisonner, on se retrouve avec les autres ados de l'unité qui viennent, entre guillemets, défendre leur ami.
Eh ben, fait que là, toi, t'es l'intervenant, t'es pas mal tout seul contre le...
Exactement.
Contre les jeunes là, qui s'en prennent à toi.
Donc, ouais, c'est un manque de personnel flagrant. On a ajouté une ressource, une personne de plus sur l'unité. J'ai demandé à la responsable syndicale de là-bas, Mélanie Bernier, si ça avait changé quelque chose. Elle avait des bonnes nouvelles.
C'est qu'ils ont plus l'impression de passer du temps de qualité, puis de créer des liens, puis d'avoir des heures de repas plus agréables, d'avoir des discussions avec les jeunes. T'sais, on a vraiment une ressource apparue vraiment dans leur travail. Ça a amélioré leur travail au quotidien.
Ouais, mais en même temps, c'est quand même assez incroyable. Considérer que ça fait partie de la job de se faire piquer par des aiguilles à tricoter ou se faire frapper comme ça. On sait, puis ici, c'est pas vraiment la faute des jeunes non plus. Les jeunes sont là à la DPJ parce qu'ils sont en crise.
Ouais.
Ils viennent de familles dysfonctionnelles. Si t'es à la DPJ comme jeune, ça va pas bien dans ta vie, là. Puis normalement, c'est une ressource qui est là pour t'aider. En même temps, du côté des travailleurs, on comprend que c'est un travail. Ça doit pas être... t'es pas là pour te faire frapper non plus.
C'est ça.
Comment arriver à gérer ça?
Bien, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est que normalement, dans un centre d'hébergement comme ça, il y a des intervenants, des gens qui sont là pour tisser des liens avec les jeunes, pour les aider, pour leur montrer c'est quoi la vie, pour les aider à devenir des adultes, parce qu'on sait qu'à 18 ans et une minute à la DPJ, on est grand et on s'en va. Donc, on veut les, entre guillemets, coacher pour la vie. Donc, ces gens-là doivent essayer de tisser des liens. C'est l'objectif. Sauf que lorsqu'on doit être sur le jeune à par terre, en train de le maîtriser physiquement, ben le lien, là...
Tu le tisses pas fort, mettons.
Non, c'est ça. On le tisse pas fort.
Mais il y a pas des... Ça, c'est le travail d'intervenant à la DPJ. C'est pas du travail de gardien de prison. C'est pas une prison, la DPJ, là.
C'est pour ça qu'il y a des agents d'intervention dans les centres d'hébergement. Et je vous parle d'un autre cas. Ça nous amène là. Cette fois, on est à Gatineau, complexe Héritage, en 2015. Et là, encore une fois, on se retrouve avec une grande liste de dossiers. Et ce que ça met en lumière, encore une fois, le manque de personnel. Bon, ça, c'est récurrent dans ce genre d'endroit-là. Mais là, on se retrouve avec des agents d'intervention, des intervenants avec les jeunes qui doivent contentionner des ados. des jeunes. Et là, ben, c'est le lien de confiance qui est parti.
Ça, c'est les attacher, les contrôler avec...
Exact. Aller les attacher aux bras, aux pieds, tout ça. Donc, il y a des agents d'intervention qui sont là pour ça, qui sont, entre guillemets, les petites polices des centres. Donc, quelqu'un en crise, s'il faut l'isoler, l'amener dans une chambre de capitonner là, pour revenir au calme, eh bien, ce ne sont pas les intervenants qui font ça. À des endroits, on en manque. Il n'y en a pas beaucoup. C'est le même genre de problème. Encore une fois, c'est un manque de personnel. Et du côté du complexe Héritage à Gatineau, ben, c'est ça. On a ajouté un agent d'intervention. Même résultat. Les intervenants peuvent tisser de meilleurs liens avec les jeunes pendant que les agents d'intervention sont là pour faire un peu la police, pour respecter le cadre, parce que ça en prend un cadre dans ce genre d'endroit-là. Et comme ça, ben, tout le monde fait son job de façon différente, joue son rôle, et ça va mieux pour les enfants, parce qu'au bout du compte, vous l'avez dit, la clientèle, elle est là parce qu'elle a besoin d'aide. Ben on peut pas mettre la violence sur le dos des enfants. Ils sont là parce qu'ils ont des problèmes à régler.
Sais-tu s'il y en a beaucoup, Annie, qui sont contentionnés, justement, des jeunes là, qui sont mis dans ces espèces de salles, de pièces? Là.
En isolation, il y en a souvent. Je n'ai pas de statistiques. La CNESST n'en avait pas pour moi. Mais je sais que c'est courant.
Ouais. C'est-tu le meilleur moyen? Moi, quand j'entends ça, ça me fait toujours tiquer. Je me dis, c'est-tu vraiment le meilleur moyen d'intervenir? Puis, tu sais, on n'est pas intervenant, toi puis moi, mais... Puis des moments où tu te dis, OK, le jeune, il est incontrôlable. Puis comme parents, on a tous, on se dit, qu'est-ce qu'on fait quand ton jeune te pète sa coche? Puis... Mais est-ce que c'est le meilleur moyen d'intervenir?
On peut se poser cette question-là, mais la chose qui est certaine, c'est que les jeunes ont besoin d'aide. Puis si on leur fait, si on leur offre des gens qui ont un rôle bien défini, dans un cadre bien défini, ça risque d'aller un peu mieux. On peut peut-être écouter une fois de plus le spécialiste, justement, Steve Geoffrion de l'Université de Montréal, qui nous parle justement de cette clientèle-là qui est bien, bien, bien particulière.
Il ne faut pas mettre la faute non plus sur la clientèle. Hein. C'est faut comprendre que c'est un risque du travail. Comme le pompier qui a un risque du travail, c'est d'être exposé à de la fumée. Puis ça peut avoir des impacts sur son système respiratoire. Donc, je pense qu'il faut que les gens soient plus conscientisés que ben, quand on travaille avec cette clientèle-là, on est exposé à de la souffrance, à des traumas. Donc, ça a un impact sur la personne aussi.
Il est très bon, Steve Geoffrion. C'est un spécialiste en stress au travail.
Exactement.
Qui t'a parlé, Annie Guillemette. Tu restes avec nous, bien sûr. On va s'arrêter ici. Je vais poser la question à nos auditeurs. Puis il y en a déjà, je pense, qui veulent intervenir pour nous parler de ce qu'ils ont vécu. Du stress au travail, on en vit tous. Évidemment, il y a un moment où tu es capable de le supporter, mais il y a un moment où tu n'es plus capable. Ça ne fait pas partie du job, hein? Il faut bien se le dire. Ce n'est pas normal de banaliser la violence au travail. Et surtout, quand ça arrive à des résultats, comme ce que tu nous as expliqué, des gens qui vivent carrément un choc post-traumatique après avoir été attaqué et des situations répétées de stress au travail, de situations qui vous mettent inconfortable, ça s'appelle du harcèlement au travail. Là. Ça peut aller jusque-là. Si vous êtes victime de ça, si vous avez déjà été victime de ça, si vous vous sentez pas bien en ce moment, que vous avez des questions, vous gênez pas, on est là pour essayer de voir ensemble comment on peut faire en sorte que ça soit pas banalisé, cette violence-là, ce stress au travail. C'est une pression énorme sur tout le monde. Pour nous joindre dans la grande région de Montréal, vous faites le 514-790-9850 et partout le 1-866-670-9850. Ben, j'ai Simon qui m'écrit, là, on parle de harcèlement au travail chez les travailleurs de la santé, en particulier chez les intervenants de la DPJ, grâce à une enquête qu'a faite ma collègue journaliste à Cogeco Nouvelles, Annie Guillemette. Mais il y a Simon qui m'écrit, fouiller le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Annie, tu pourras aller voir, ça t'intéresse dans ce coin-là. Il dit, ces travailleurs ont pas de syndicat, on est victime des pires conditions de travail, de harcèlement, stress, injustice, bas salaire, que ce soit dans les cuisines, les serveurs. On peut dire qu'au Québec, les employeurs sont assez inhumains et dégueulasses. C'est Simon qui me dit ça. Il y a Juan qui nous appelle. Il travaille dans un centre jeunesse, justement, comme agent d'intervention. Tu nous en parlais, Annie. Mm-hmm. Là, c'est sûr, agent d'intervention, c'est pas les intervenants sociaux là, qui sont là pour créer des liens avec les jeunes. C'est vraiment les agents qui interviennent quand il y a lieu. Puis je posais une question sur la contention. Juan, je pense que ça vous a fait réagir. C'est vraiment une question. Je me demandais, est-ce que c'est toujours nécessaire? Mais vous êtes bien placé pour nous en parler.
Oui, bonjour.
Bonjour à vous. On vous écoute.
Oui, en fait, je travaille depuis près de 6 mois dans un centre jeunesse.
Oui.
Et l'idéal était évidemment de créer des liens avec le jeune, l'éducateur envers le jeune. Sauf que les éducateurs aujourd'hui sont tellement saturés par leur manque de conditions de travail ou soit par la peur que souvent des situations spécifiques leur fait subir. Wow. Et ils font appel à nous autres comme intervention pour les maîtriser ou la contention. Ça se fait des plus. On est rendu peut-être à 10 à 15 contentions par jour, dépendamment du département ou l'unité. Et puis ça, mais au lieu de créer le lien comme tel avec le jeune, ça ne fait que empirer la situation. Et souvent, les éducateurs comme tels appellent plus souvent, malade, ou s'en vont justement en congé maladie obligatoire. Et ça fait que décliner le service. Et puis évidemment, le manque est toujours là.
10 à 15 contentions par jour, Juan, c'est sur c'est sur combien de jeunes dans un centre?
On peut parler souvent, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui sont très problématiques. On peut aller sur un jeune jusqu'à 5 fois. Des fois, ma plus longue contention a été 1h30 par terre. On était 4 agents sur un jeune qui pèse même pas 50 kilos. Et puis, on trouve quand même, puis il y a autre chose aussi que c'est pas bien dit, c'est pas explicite, mais on prend souvent des étudiants en technique policière qui ont évidemment l'expérience au niveau théorie, mais ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement intervenir puis mettre par terre quelqu'un. Ouais. Il s'agit quand même d'un jeune, puis ils ne comprennent pas non plus les séquences à long terme.
Ouais, tout à fait.
Exactement.
Ouais. Ben on poussera ce sujet-là, c'est sûr, mais en tout cas vous confirmez, Juan, qu'il y a vraiment un problème au niveau là du silence, l'espèce d'omerta, puis la peur d'aller travailler dans un centre. Merci beaucoup de votre intervention. Merci bien. On a André qui est avec nous également. Bonjour André.
Bonjour Isabelle. Bonjour Annie.
Bonjour.
C'est un parallèle. Moi, c'est au niveau du système de la santé. Ma conjointe travaille dans un centre hospitalier. Mm-hmm. Et souvent, ils se font harceler par les patients, surtout au niveau chirurgie d'un jour. Souvent, bon, mais il y a de l'agression. Et puis, ma conjointe a déjà été sur la CNESST. Et grâce à un médecin spécialiste qui était en parallèle, dans le sens qu'il n'était pas affilié au centre hospitalier, elle a pu rester sur la CNSST parce qu'elle avait des fractures aux côtes. Écoutez, là, quand tu es préposé aux bénéficiaires, tu es obligé de manipuler des patients. Là, c'est pas toujours évident. Il y en a qui tombent d'un bras, là, qui tombent à terre, là, quand tu pèses 110 livres, puis l'autre en pèse 200. Là. C'est pas toujours évident. Mais là, les ressources humaines te font passer par leur médecin à eux autres. Qui sont affiliés à la CNSST, ce sont des médecins de l'hôpital qui te forcent à retourner au travail. Mmh. Et vivent aussi les ressources humaines là, qui n'arrêtent pas d'harceler pour que tu retournes au travail. Il y a beaucoup, connais beaucoup d'infirmières et de préposés qui ont été obligés de retourner au travail même s'ils étaient encore blessés.
Ah, ouais.
C'est du harcèlement. Si Annie Guillemette pourrait faire une enquête là-dessus dans le système de la santé, elle resterait vraiment surprise sur le nombre de patients, d'employés qui sont sur la CNSST par rapport à ceux qui devraient être dessus, mais qui tombent en maladie.
Ben justement, Annie a fouillé ce bout-là aussi, André. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de parler de ça également. Merci, c'est un super bon témoignage qu'André vient de nous faire. Et justement, sur l'absentéisme, Annie, tu as des chiffres.
Ouais, les chiffres montent en flèche. Et là, le chiffre que je donne, Isabelle, c'est vraiment pour tous les employés de la santé, tous les CIS, tous les CIUS au Québec, entre 2014 et 2018, le taux d'absentéisme a grimpé de 34 % en 4 ans.
Incroyable.
Et ça, si on met ça en temps de personnes qui travaillent, donc toujours sur 4 ans, 2400 employés à temps plein.
Qui seraient partis en congé maladie.
Qui sont malades dans le système à quelque part, qu'il faut remplacer dans une période de pénurie. Donc,
quand mais ceci explique trous, cela. Là, c'est ça, quand on dit, voyons, ça avance pas, ça bouge pas, c'est pris comme dans du béton. Pourquoi? Le monde va pas bien, Annie. C'est ça que tu nous dis, là. Puis il y a Michel qui m'écrit, il faudrait pas oublier les employés qui travaillent dans les compagnies de transport comme la STM. Il dit, moi, j'en viens pas ce qu'il écrit. Il dit, en gros, là, on se fait battre, on se fait menacer de mort, on se fait cracher dessus, on reçoit des verres de pisse d'en face et des coups de poing. C'est assez incroyable. Mais ça, là, Michel, si vous vivez ça, faut que vous alliez vous plaindre. On peut, ça fait, on en revient à ce que tu disais d'entrée de jeu,
la loi du silence.
Oui, mais ça fait pas partie de la job. Mm-hmm. C'est pas vrai que t'es supposé endurer ça parce que tu travailles, voyons donc. Et je redonne notre numéro, là, 514-790-9850. Si vous avez déjà vécu ce genre d'affaires, se faire cracher dessus parce que tu travailles quelque part, voyons donc.
Mais ce que les gens nous répondent sur le terrain, Isabelle, c'est qu'ils sont là pour les enfants. Ils me disent tout, oui, mais moi, j'ai étudié pour aider les enfants. C'est ça que je voulais faire dans la vie. Bien sûr, il n'y a pas de cours à l'université en travail social ou en criminaux ou en psychoéducation. Quoi faire quand on se fait harceler, crier des noms et frapper?
Mais tu vois, ce qu'ils font, c'est ce que nous disait Juan tout à l'heure. Ils appellent de plus en plus les agents d'intervention.
C'est ça. Et souvent, il y a un agent d'intervention ou deux pour plusieurs unités. Et donc, les agents d'intervention peuvent être à une seule place à la fois. Mm. Et c'est là qu'on se retrouve avec des intervenants, parfois, qui doivent intervenir directement avec un jeune avec qui on travaillait pour créer un lien. Et ce lien-là, ben, est toujours difficile à tenir.
Après, on se demande comment ils peuvent en échapper, des fois, les intervenants de la DPJ. Quand tu vis comme ça, quand tu travailles, tu te lèves, tu vas travailler dans un contexte comme ça, t'en perds des bouts, là.
Mais la question sur le terrain, ce qu'on me dit, c'est pas est-ce qu'on va en échapper d'autres, c'est quand.
C'est ça. Oh mon Dieu. Es-tu sérieux?
Oui, c'est ça qu'on me dit.
Wow. On a Karine, c'est ça qui nous appelle. Bonjour Karine.
Bonjour.
On vous écoute. Travaillez-vous à la DPJ? Oui.
Non, moi je suis éducatrice.
Oui.
Mais, j'ai déjà travaillé dans des centres jeunesse. Okay. J'ai travaillé avec des enfants qui avaient des besoins particuliers. Puis je voulais faire un petit rajout au niveau des interventions physiques.
Mm-hmm.
Il faut se dire que lorsque un intervenant fait une intervention physique, c'est vraiment parce que l'enfant va pas bien. Puis normalement, c'est pour sa sécurité et la sécurité des gens qui l'entourent aussi. Fait qu'il faudrait faire attention de pas non plus dire que on veut pas bien faire pour nos jeunes. Là.
C'est sûr. Non, c'est clair. En fait, on dit pas ça du tout. On dit même le contraire.
Non, mais...
Ouais. Mais
si les directions des établissements mettent les bonnes interventions, les bons personnels, je crois que nos éducateurs ne seraient pas à bout non plus.
Exact. En fait, on compatit beaucoup avec tous les gens qui travaillent là. Je pense que on s'est beaucoup plaint aussi. Merci, Karine, de votre appel, c'est important. On s'est beaucoup plaint des interventions ratées de certains endroits. C'est vrai qu'il y a des DPJ, on l'a vu, Annie Guillemette, où il y a des manques. Il y a des manques à la direction.
C'est peut-être pas les choses. Voilà. Effectivement.
Mais il y a ça aussi. Je trouve ça intéressant, ton enquête, parce que ça montre qu'il y a un véritable problème de conditions de travail.
Il y a des gros objectifs, des gros manques du côté des intervenants qui, encore une fois, me disent sur le terrain, on veut aider les jeunes, mais on n'a pas les moyens,
plus les moyens de
pour
travailler.
Le faire.
Voilà.
Le manque de personnel dans tout ce que j'ai répertorié comme dossier, c'est flagrant, c'est répétitif, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Et aussi, parfois, les lieux sont mal adaptés. On a besoin d'un centre, on prend une ancienne école ou un ancien couvent, on va voir le bricoler un peu, devenir un centre d'hébergement, mais là, il n'y a pas de bouton de panique, il n'y a pas de c'est pas bien fait, c'est pas fait pour ça. Et là, ben ça entraîne des difficultés.
On a Patrice avec nous. Bonjour, Patrice.
Oui, bonjour. Moi, je vais m'en aller un petit peu ailleurs. En fait, je vais vous parler de mon ancien employeur, le CHUM. J'ai travaillé à l'Hôtel Dieu de CHUM jusqu'à il y a 4 ans. Et en radiologie, on travaille beaucoup physiquement. On lève les patients, on les tourne, on les prend en photo de plusieurs façons. Et on va aussi dans les unités de soins où on soulève des patients très lourds dans les lits pour mettre des plaques de rayon X en arrière de leur dos. Je me suis retrouvé avec une hernie discale sévère. J'ai été en crise sur le dos pendant 4 mois. Et j'ai eu mon employeur, le bureau de santé du CHUM, qui me harcelait continuellement et qui a pris mon dossier médical pour l'utiliser, qui a envoyé ça à son bureau d'avocat. Et le bureau d'avocat m'a envoyé une convocation, m'a envoyé une lettre et j'ai été convoqué à la commission des lésions professionnelles parce que j'avais été accepté à la CSST à l'époque, mais mon employeur, le CHUM, contestait à cette époque-là, d'après mon syndicat, 80% des cas acceptés par la CSST.
Ah ouais.
Donc, nous convoquait devant la commission des lésions professionnelles. Alors, déjà, on a la blessure qu'on endure, une hernie discale, ça fait très, très mal.
Ouais.
J'avais une compression médulaire très, très sévère. Et en plus de ça, je vivais le stress de perdre ma CSST.
Oui, oui.
J'aurais été obligé de rembourser le CHUM parce qu'eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir le moins de cas possible.
Mais c'est clair, c'est sûr.
À la CSST pour payer moins cher.
Mmh. Hey, justement, Patrice, merci de votre témoignage. Ça nous amène en conclusion à entendre justement un porte-parole, la CNESST, à qui tu t'es adressée, Annie Guillemette, là-dessus, sur qu'est-ce qui est accepté ou pas, là, quel genre de cause.
Ouais, il y a des choses comme, tantôt on parlait du pompier qui respire de la fumée, tout ça. Ça, ce sont des lésions professionnelles reconnues, présumées. Donc, du côté de la CNESST, dans un cas pareil, on présume que la lésion est due au travail. Dans un cas de stress au travail, quand ce n'est pas une blessure physique, eh bien, à la CNESST, on ne présume de rien. Qui a le fardeau de la preuve? Devinez.
Bien.
On écoute Nicolas Bégin, le porte-parole.
Ce
que ça veut dire finalement, en bon français, c'est que bon, ben, on reconnaît que bon, ben, pour tel type de travail, il est effectivement possible qu'il y ait tel type de lésion. Évidemment, cette liste-là n'est pas exhaustive de toutes les lésions qui existent. C'est pour ça qu'on dit qu'à ce moment-là, ben, quelqu'un qui est un travailleur qui croit être victime, si on veut, d'une lésion professionnelle, qui ne fait pas partie de cette liste-là, bon, qui en énumère plusieurs, ben, à ce moment-là, peut quand même nous faire la démonstration que sa lésion, finalement, est liée à son travail. Donc, il y a quand même une possibilité.
Il y a quand même une possibilité. T'sais, ton chien n'est pas complètement mort. Annie Guillemette, merci beaucoup pour cette enquête. C'est vraiment important d'aller faire ce genre de travail. En tout cas, bravo. Merci, Annie est journaliste à Cogeco Nouvelles. Puis je pense qu'on t'a donné quelques autres pistes pour fouiller, continuer de fouiller.
Il y a d'autres secteurs.
Voilà, merci beaucoup, Annie. Tout de suite après la pause, en entrevue sans filtre, je reçois l'auteur, compositeur, interprète, Danny Bédard. Restez là, tout le monde.